suite du journal de Julien Béraud où il intègre sa communication faite en l'honneur de Boucapit. Suite. En même temps, le grand principe de la conservation de l'énergie se modifiait en se précisant dès l'instant qu'il apparaissait que tout phénomène, une fois réalisé, continue d'avoir lieu potentiellement, comme en marge du temps vécu. L'énergie se conserve parce qu'elle est créatrice, comparable en cela, selon la belle formule de Boucapit, à une procession ininterrompue de protozoaires qui se reproduirait par sissiparité. Aujourd'hui, se basant à la fois sur le fait que les particules atomiques ne sont que des contenants de charges différentes et sur le fait que, pour des durées infinitésimales, le concept chronologique de la cause à l'effet peut être contredit, nos savants sont devenus capables de transformer une particule en l'autre à charges égales de boucatons, du passé à l'avenir et de l'avenir au passé, comme on déroule un fil dans n'importe quel sens. Ainsi, je puis annoncer la sortie très prochaine des usines USA d'une télévision entièrement nouvelle où nulle radiation ne sera plus à craindre, puisqu'elle ne sera plus fondée sur une application électronique, mais sur une application des champs de potentialité. Il s'agira d'autre part d'une télévision totale, où le double, et non plus l'image de l'événement, sera communiqué au téléspectateur. Un tel bouleversement des opinions reçues doit choquer la raison. De même, il y a 4 siècles, les expériences de Volta ont choqué nos ancêtres en substituant à la notion de matière la notion de champ électrique. Mais déjà, nous sommes obligés d'admettre, sous la chronologie sensible des phénomènes, une autre réalité où tous les actes accomplis, les paroles dites, à la fois sont et ne sont pas, comme un objet quelconque disparaît dans la nuit sans pour autant cesser d'être. Déjà, l'on doit prévoir que demain, nous parviendrons à recueillir des phonèmes de notre passé le plus lointain comme le plus récent. Peut-être même un jour, deviendrons-nous capables de rematérialiser des êtres disparus et qui nous furent chers. N'oublions pas alors que ce progrès merveilleux, nous le devrons à l'œuvre de Mani Book. Fin de l'intervention. Suite du journal. Aveu comique, ma propre causerie m'a ému. Lorsqu'il m'arrive ainsi d'envisager les étonnants lendemains qui s'ouvrent à nos potentialistes, il me prend le regret d'avoir abandonné la recherche scientifique au lendemain de mon mariage avec Rosa Honeydy. Mon beau-père était alors le premier monsieur d'Amérique et Rosa n'eut pas compris que je continue de végéter à Tidica quand je pouvais ambitionner n'importe quel poste à Washington. Chef de cabinet de Honeydy, puis ministre de la Défense occidentale jusqu'en 2173, il est vrai que je n'aurais pas eu le temps de poursuivre mes travaux favoris. Mais, en me condamnant à un relatif exil, la mort soudaine de mon beau-père ne m'a pas pour autant rendu la liberté. Rosa était l'amie intime de Patricia Leggs, cousine germaine de Hébert. Par son entremise, dès le printemps de 2174, j'étais nommé consul en Espagne. L'année suivante, après la grande réforme de l'Occident, qui supprima toutes les frontières et transforma en une fédération de provinces les anciens États d'Europe et d'Afrique, je dus prendre le titre de représentant légal, sans que mes fonctions d'ailleurs en fussent beaucoup modifiées. Actuellement, mon autorité couvre l'Italie du Sud, à l'exception de la Sicile, et c'est une charge considérable pour l'homme tranquille, dénué d'ambition que j'ai toujours été. Tout au moins, me rassure-t-il que l'Italie est l'une des parties du monde les plus paisibles et que la guerre, peut-on croire, n'y sera jamais portée. Fin du paragraphe, écrit en février. 18 mars. Nous nous demandons parfois comment les historiens de l'avenir apprécieront cette fin du 22e siècle. Il est à craindre qu'ils s'y retrouvent malaisément. En dépit des essais et des articles de toutes sortes que des spécialistes consacrent à nos problèmes. Ils n'auront jamais trop de documents et c'est pourquoi je me décide à reprendre mes notes interrompues. Honeddy est mort, assassiné, en décembre 2173 alors qu'il touchait à son but, le pouvoir absolu en Occident. Le meurtrier, Thève Gustin, dit la brute, et dont la calomnie a voulu faire un fils adultérin du général, le meurtrier donc, a subi, sans parler, procès et châtiment. Il n'a pas dévoilé le nom de ses employeurs, si bien que Hébert a pu accuser de ce crime un agent de l'étranger et la rumeur publique, n'importe qui. Hébert est le premier président noir américain. On dit que, parmi ses ancêtres, il y eut des esclaves sudistes. Cette ascendance, peut-être, explique une certaine mysticité sensible dans tous les actes du nouveau chef, totalement absente chez ses prédécesseurs. Présence effective de Hébert à l'inauguration du temple taurique de Boston, etc. Certains des événements récents auraient terrifié des générations. À nos enfants, ils semblent normaux et naturels. Nos fils ressentent qu'au lendemain de la grande panique, l'Amérique est entrée dans une période nouvelle de son histoire dont on peut croire qu'elle sera heureuse et longue, aussi longtemps du moins que nous jugulerons l'Orient. Car, aujourd'hui comme hier, le problème numéro un demeure les républiques de l'Est, même s'il nous est encore caché par l'éparpillement des pouvoirs entre Lhassa, Pékin, Delhi. Il est certain qu'en face des USA, désormais sûrs des provinces d'Europe et d'Afrique, l'Orient ne présente qu'un puzzle, encore inorganisé. Prise séparément, il se peut que la Russie de l'Est soit plus puissante que l'Europe. L'Inde représente sans doute un potentiel 7 ou 8 fois supérieur à celui des provinces d'Afrique. Les États d'Extrême-Orient, Japon et Chine, pourraient ne faire qu'une bouchée du continent américain. Mais chacune de ces républiques possède son chef, son président, ses comités, ses conseils. Elles ne cessent de confronter leurs interprétations du marxisme primordial que pour revendiquer la première place et la direction suprême du parti. Pour ne point s'entre-dévorer, il leur faut, tous les 3 mois, rechercher de nouveaux accords. Ainsi, nous avons vu dans le dernier conflit au sujet de l'Oural, octobre-novembre 2170, la Russie de l'Est s'opposait seule au bloc de l'Occident et la campagne de Hébert dans les Nouvelles Hébrides il y a 4 ans, n'aurait pas été si rapide, si triomphante, supposé que l'Inde eût apporté son aide aux républiques chinoises. Mais également, il y a l'Empire arabe. J'ai entendu Honeydy, peu de temps avant sa mort, prédire que la seule sécurité pour l'Occident serait un jour l'existence du Grand Maghreb. Il semble que cette prophétie ait commencé de se réaliser. Par deux fois, depuis 2160, les musulmans ont repoussé sur l'Euphrate les agresseurs indiens et kurdes. Le bouclier peut céder demain. Espérons qu'alors l'Occident sera prêt pour la suprême bataille. De toute façon, ce doit être la gloire du président Chokhané d'avoir poursuivi dans ce sens l'œuvre des grands anglo-saxons depuis le colonel Lawrence et contribué au développement du bouclier après que ses prédécesseurs en eurent permis la création. Je pense, entre autres événements, à cet abandon d'Israël que d'aucuns, il y a 100 ans, considèrent comme un crime. Fin du paragraphe écrit le 18 mars. 28 mars. Croirait-on qu'on puisse regretter un homme dont l'idéal paraissait être l'anéantissement? Il nous arrive parfois, à ma femme et à moi, de nous poser la question au sujet du prophète Adjoran. Et ce n'est pas seulement parce que son prêche, sa vie, coïncide avec le début de nos amours. J'aurai la franchise de le reconnaître. Ce que nous regrettons, c'est la crainte même, la grande panique, nos jours sans cesse menacés. Je l'avoue placidement, je ne suis pas un monstre, tous pensent comme moi, sinon nos filles et nos fils, trop jeunes pour avoir vécu ou pour se la rappeler, l'année terrifiante. Notre fils Johnny ainsi, lorsque nous en parlons devant lui, nous considère avec ironie, semblant croire que nous plaisantons ou que nos souvenirs nous trompent. Pour le reste, exigeant, lucide et dur, comme tous les jeunes de cette génération. Mon arrière-grand-père paternel, au dire de mon père, évoquait en souriant parfois sa propre enfance des années 1980-2000. Note de la lectrice, ce roman a été écrit en 1964. En souriant parfois sa propre enfance des années 1980-2000, les blousons noirs et les blousons dorés, les grèves scolaires de Paris, de Moscou, de New York, les émeutes du Caire, d'Alger, de Delhi, les grands spectacles punitifs qui ont suivi à New York, à Pékin, plusieurs milliers de jeunes publiquement fouettés pendant 8 jours. « Et puis, tout de même, disait-il, nous nous sommes assagis enfin, puisque nous avons survécu. » Nos enfants également vieilliront-ils? Vivront-ils assez vieux pour s'assagir aussi? Quelquefois nous en doutons, nous, pas seulement Rosa et moi, mais dans le monde entier, du moins je le suppose, la majeure partie des mères et des pères. C'est que la jeunesse du XXe siècle était choquée profondément par la quotidienne menace d'une destruction nucléaire. Dès l'instant que cette menace ne s'accomplissait pas, tout devait rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, la destruction est derrière nous. Rien n'explique plus le comportement de la jeunesse. Ou bien, ici encore, nous sommes-nous trompés? Continuons-nous de faire erreur? Le grand romancier sud-américain Baltaro écrit dans « Limpide avenir » Il a fallu 6 ans aux citoyens du monde pour réapprendre à vivre, mais il leur a fallu 6 mois pour réapprendre l'ennui. La notation est exacte. Heureux temps de la fin du XXe siècle, où l'avenir était sombre, inquiétant. À peine le ciel s'est-il dégagé que déjà nos yeux se fatiguent d'y chercher en vain une ombre sur laquelle se reposer. Fin du paragraphe, écrit le 28 mars. Le 2 avril, Rosa dit que cet ennui dont je me plains est surtout sensible en province. Il est vrai que les jeux y font terriblement défaut. Depuis ma nomination en Espagne, je ne suis retournée qu'une fois aux USA, en mars-avril 2175. À cette époque, déjà, on s'y divertissait. La ville de New York à elle seule ne compte pas moins de 3 aérodromes où peuvent être rassemblés 10 millions de spectateurs. Les combats de chasseurs, de planeurs s'y disputent pendant une journée entière, entrecoupés de dizaines de vols et parachutages suicides. Chaque fois, sur l'aérodrome du Village, atterrit une fusée qui revient de la Lune ou de Mars. Et toutes les semaines, à Manhattan, le public est admis à des essais d'antigravitation sous la surveillance de moniteurs assermentés. Est-il croyable que, dans toute l'Italie, 3 aérodromes seulement soient ouverts au public, l'un près de Milan, l'autre au sud de Rome et le troisième à Palerme? Petits aérodromes d'ailleurs, celui de Palerme ne peut recueillir plus de 500 000 personnes, les deux autres à peine le million chacun, puis les spectacles y sont donnés au compte-gouttes, 2 ou 3 par mois en moyenne, ils se composent généralement d'un unique combat de chasseurs et de 5 ou 6 vols suicides. Exceptionnellement, on y assiste à un retour de Mars. Reste les plaisirs du cru, parmi lesquels les folles querelles des sectes. On n'eût pu croire que les événements de 2169 et l'institution de l'Empire d'Occident mettraient un terme à ces vétilles, c'eût été mal connaître les hommes. Chaque jour, je me retrouve en face de 100 problèmes, guère moins insignifiants, mais non moins irritants que les moustiques. Comme s'il ne suffisait pas des vieux dissentiments entre dominicains et franciscains, entre franciscains et jésuites, nous avons vu ressurgir dans la ville sainte les vieilles traditions Rose-Croix et Bogomil, éteintes depuis des siècles. Les églises réformées y ont leurs temples, vestiges des tentatives de réunification œcuménique de 1964 et 1985. Enfin, de nouvelles sectes y naissent quotidiennement. Certaines d'entre elles s'apparentent aux anciennes cellules spirites, théosophiques ou francs-maçonnes des 19e et 20e siècles. D'autres sont de simples résurgences de mouvements nationalistes de provenance espagnole, française ou allemande, dont le but, avoué ou secret, demeure la libération de l'Europe.